Vous écoutez le podcast de Curiosité. Toutes les deux semaines, on vous propose de partir à la rencontre d'une personne qui a choisi de poser une action professionnelle, collective ou personnelle différente. Un ensemble de graines que l'on dépose ici en espérant qu'ils nous permettent de cultiver notre diversité. Aujourd'hui, je vous invite à prendre une pause avec Jérémy Carrois, créateur et directeur de publication de La Relève et la Peste. Ensemble, on va parler de son parcours et des médias indépendants, mais aussi de liberté, de l'importance du beau dans le partage de l'information et de la nécessité d'agir face à l'urgence climatique. On vous donne rendez-vous après l'épisode sur les réseaux sociaux de Curiosité pour partager vos réactions. Bonne écoute. Alors, bonjour Jérémy. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est via le site web La Relève et la Peste qu'on t'a découvert, en fait, un jour par les médias sociaux. Je vois passer un article qui s'appelle « Trouve le verbe de ta vie, pas le métier mais le verbe », un article signé par Sarah Roubateau. Je clique là-dessus et je découvre La Relève et la Peste, ce qui a pour ma part changé pas mal de choses parce que c'était vraiment le média d'information que je recherchais. Et j'ai eu besoin de savoir qui se cachait derrière, donc j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée donc sur ton nom, Jérémy Carrois, donc qui est créateur de La Relève et la Peste. Alors, merci donc d'accepter de faire partie de notre podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, on va y aller avec une question vague, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui ?
Aucun souci. Alors, je m'appelle Jérémy Carrois, comme tu l'as dit, et je suis le créateur, directeur de publication de La Relève et la Peste, donc qui est une maison d'édition et un média 100% indépendant. Donc, en fait, j'ai deux casquettes au sein de La Relève et la Peste, et La Relève et la Peste a aussi deux casquettes dans le sens où c'est une maison d'édition indépendante, donc on édite en totale autonomie nos propres livres, et on est aussi un média. Parce que tous les jours, avec notre équipe de rédaction, on écrit entre 3 et 5 articles au quotidien pour informer nos lecteurs de ce qui se passe un petit peu autour de nous, voilà, de manière 100% indépendante. Voilà à peu près l'idée générale de La Relève.
Puis toi, à la base, est-ce que tu es journaliste ? Surtout, t'es venu cette volonté d'informer et d'informer autrement ?
Alors, à la base, je ne suis pas du tout journaliste. Moi, j'ai fait une école de commerce sur Paris. J'ai fait une école de commerce, j'ai un master 2 en entrepreneuriat et en fait, j'ai été pris de passion par le journalisme, par les livres, par le métier du journalisme dans sa globalité. Voilà, okay. Tout simplement.
Puis, pourquoi avoir choisi de créer une plateforme 100% indépendante ? Pourquoi ? Parce que quand on va sur La Relève, la Paix, ça ressemble à rien d'autre. En plus, vous publiez aussi, comme vous êtes une maison d'édition, vous avez publié deux manifestes, deux livres journal. Le contenu qu'on trouve là-dedans est quand même différent d'un média. J'aime pas le mot traditionnel parce qu'il n'y a rien de traditionnel, mais c'est, on voit que vous essayez de porter un autre message. D'où oui. Est venue cette volonté ?
Bah, en fait, le truc, c'est que j'étais un gros lecteur de journaux à l'époque et je trouvais que tous les journaux que je lisais étaient assez vides de sens et je les trouvais pas assez détaillés et écrits. Et je trouvais aussi le format papier. Je trouvais qu'il manquait de design. Je trouvais que ça donnait pas envie de lire. On parle souvent que notre génération, parce que j'ai 28 ans, je suis un jeune trentenaire, notre génération est en quête de sens. On fait pas grand chose. On n'a pas envie de travailler. Blablabla. Blablabla. Et donc, du coup, je me suis dit, j'avais envie de travailler le côté du journalisme 100% indépendant et de travailler des articles dans le fond, de cette fois-ci prendre parti quand même dans les articles. Hein. Même si on a un média, pour moi, je ne crois pas trop à la neutralité de l'information, enfin, en tout cas aujourd'hui avec le contexte dans lequel on est. Et je voulais populariser, vulgariser et surtout avoir des beaux objets pour informer et donner envie aux gens et aux plus jeunes de lire des livres, tout simplement. Et sans être pris par la publicité, de faire un beau travail graphique, d'essayer d'améliorer les textes graphiquement, que ce soit les plus beaux visuellement à lire, quoi.
C'est vrai, genre là, j'ai la chance, j'ai Graine, on en a déjà parlé souvent dans notre infolettre à nos auditeurs entre les mains. Puis tu sais, quand tu l'as en plus du contenu qui, moi, je trouve très, très nourrissant, l'esthétique de l'ouvrage est assez marquant. Est-ce que
Vous utilisez vraiment l'esthétisme pour peut-être essayer de véhiculer des messages qui
Complètement,
trouvent
oui.
moins leur écho, moins leur place facilement, ou en tout cas qui. Est-ce que par l'esthétique de vos ouvrages, c'est ce que vous essayez de passer?
Exactement. Moi, je voulais absolument avoir un bel objet. En général, quand on achète des journaux, des magazines, la plupart du temps, ça se retrouve dans nos toilettes. Et je voulais absolument que l'information première se retrouve au milieu d'une table, que les gens se disent, tiens, regarde comme l'objet est beau, informe-toi avec, tu vas voir, c'est sympa. Et donc, du coup, je voulais vraiment allier les deux. Ouais. C'était vraiment l'idée première. C'était surtout aussi l'esthétisme du produit et retravailler le livre
okay.
dans sa globalité. Voilà.
Puis vu que vous êtes indépendant et donc il n'y a pas de publicité ni sur votre site web, ni dans votre livre journal ou vos manifestes, qu'est-ce
ouais.
qui vous permet de vous financer? Genre, c'est quoi les défis et les avantages d'une telle situation?
Les avantages, c'est qu'on est libre à 100%. On fait vraiment ce qu'on veut. Moi, je sais que je m'éclate énormément avec notre directeur artistique et puis l'équipe de direction artistique parce qu'ils sont libres et on est libre à 100% de faire ce qu'on veut avec le texte, de choisir les couleurs, de choisir la grille parce que de toute manière, il n'y a pas de grille. À chaque fois, chaque page est graphiquement différente. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, les difficultés, en fait, notre modèle économique, il est tout simple. Hein. On ne vit que de la vente de nos livres journaux, de nos livres et de nos manifestes. Donc, du coup, faut qu'on vende au quotidien pour payer notre équipe, pour développer la boîte, pour développer tout ça, quoi. Donc voilà, tout simplement, les avantages, c'est qu'on est libre. On est libre, tout simplement. Et les inconvénients, c'est qu'en tant que média indépendant et sans être financé par des investisseurs ou de la publicité, qui seraient quand même des revenus non négligeables pour nous développer plus rapidement et plus facilement, du coup, les difficultés, elles sont au quotidien. On a des budgets très restreints. Faut tout le temps négocier les prix avec les imprimeurs, avec même notre direction artistique, avec plein de choses comme ça. Donc, du coup, c'est beaucoup de négociations, on va dire.
Et puis, en plus, vous avez la volonté. Je pense que tout est produit en France. Hein, genre,
oui, complètement.
Puis, la qualité du papier, genre, c'est ouais. en plus il y a des choix écologiques aussi derrière tout ça.
Complètement. Complètement. Ah oui, bien évidemment. Tout est imprimé en France. Tout est fait en France de manière locale et artisanale. Voilà.
Puis là, tu parles de l'avantage et la liberté. Ce choix de liberté et d'indépendance, toi, dans ta vie personnelle et professionnelle, ça t'apporte quoi?
Ça m'apporte plein de choses, que du bonheur. C'est trop bien parce que les jours où... j'ai pas de patron au-dessus de moi, j'ai pas de patron au-dessus de moi, je suis bien dans ma vie, je peux être que créatif, je me développe comme je peux et non, c'est trop bien parce que je suis quelqu'un de très créatif et j'ai besoin de je sais pas comment on appelle ça, j'adore penser, j'adore créer, j'adore écouter de la musique, me poser par exemple 10 minutes, un quart d'heure et puis de penser à un nouveau concept ou voir le développement de la boîte future. Et donc, du coup, ça, je sais que c'est un privilège de dingue. Et donc, du coup, ça me développe dans plein d'aspects de ma vie privée, de ma vie professionnelle. Donc, c'est très bien.
On a l'impression qu'on est de moins en moins bien informé aujourd'hui, même si on a de plus en plus d'outils pour l'être. C'est un peu paradoxal, là. On n'a jamais su aussi rapidement et aussi facilement ce qui se passe à l'autre bout de la planète et en même temps, on sait de moins en moins de choses. Est-ce que y a aussi une réelle volonté avec la relève et la peste de mettre en avant ces choses-là puis d'avoir une ligne éditoriale est-ce que tu peux un peu nous parler de la ligne éditoriale chez vous?
Oui, complètement. En fait, la ligne éditoriale sur notre revue papier, elle est très simple. Moi, je laisse carte blanche à nos auteurs. Donc, c'est en général des acteurs qui œuvrent pour le bien commun et qui soit ont mis en place des alternatives écologiques, économiques, etc. Et en général, ce sont des grands spécialistes qui nous racontent comment fonctionne notre société. Donc, ça passe de Pierre Rabhi, le français écologiste, paysan, de Hubert Reeves. On a aussi d'autres grands noms. Mais la ligne éditoriale, en fait, elle n'est pas... Je ne sais pas comment vous dire. Elle est assez... Même dans notre ligne éditoriale, on est libre. Voilà, on va parler de tout ce qu'on veut, à partir du moment où c'est alternatif et que ça a un impact sur notre société, on va en parler et on va faire appel à cet auteur, tout simplement. Voilà.
Okay.
On se restreint le moins possible dans une ligne éditoriale, mais évidemment, ça parlait d'écologie, de développement, d'économie et plein d'autres choses.
Je me questionne, moi, personnellement, beaucoup sur la signification d'être une communauté aujourd'hui. Ça signifie quoi pour toi, être une communauté actuellement?
Être une communauté, elle est très, très bonne question. Moi, en général, justement, je suis pas très très fan du côté communautaire. C'est très bien de se sentir en communion et en communauté avec avec plein de personnes. Mais l'idée, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes. Et donc, du coup, ce serait d'aller chercher. Parce qu'en fait, dans le mot communauté, ça me fait penser, par exemple, j'imagine ça comme un rond. Et donc, du coup, dans ce rond, on se respecte que entre ce rond. Et donc, du coup, ça m'enferme un peu dans ce côté un peu de liberté. Et donc, du coup, je le verrais plus comme un rond qui n'est pas complètement fermé. Et donc, du coup, j'aimerais bien aller chercher des gens qui pensent pas comme nous, des gens qui sont un peu, qui sont de droite, qui sont des extrêmes, qui sont un peu de partout pour essayer de les éveiller et de leur faire prendre conscience de l'impact et de l'urgence climatique qu'il y a en ce moment et de l'information qu'on essaie de véhiculer. Donc voilà, il y a un double sens dans le mot communauté. C'est oui, c'est très bien, mais il ne faut pas se renfermer dans cette même communauté et s'élargir au maximum aux gens et s'éveiller aux autres.
Quand tu me parlais de ton cercle ouvert, j'ai pensé à un jeu qu'on jouait quand on était petit qui s'appelait Snake sur les premiers téléphones cellulaires. Oui, donc ta communauté, c'est un peu le Snake. Là,
exactement.
Au final, il forme une genre de spirale parce qu'il grandit de façon permanente, mais il n'est jamais fermé.
Complètement, exactement. Et ben, c'est une belle image. Voilà, c'est le Snake de l'époque.
C'est le Snake de quand on était petit.
Voilà.
On fait quoi pour sensibiliser les gens? Là, tu parlais des enjeux climatiques, des enjeux de société. Il y a aussi des enjeux qui sont liés à la société de consommation dans laquelle on vit. On fait quoi pour sensibiliser les gens aujourd'hui?
Il y a plein d'actions. On peut faire plein d'actions. Aujourd'hui, moi, j'ai pris le biais de l'information et j'ai pris le biais de l'information et du livre. Mais aujourd'hui, pour sensibiliser les gens, il y a plein d'autres actions. Il y a la réalisation, par exemple. Il y a le support vidéo, il y a le support audio, il y a le support papier. Il y a des actions de communication. On peut quand même si on parle beaucoup des GAFAM, etc., on a quand même les réseaux sociaux qui nous permettent de mettre en avant nos actions. Donc, non, il y a plein de choses. Il y a plein de choses.
Ok, donc tu es optimiste?
Oui, je suis quand même optimiste.
Alors, je vais te poser des questions un petit peu classiques chez Curiosité qu'on pose à tous nos invités depuis maintenant 3 saisons. Alors, la question flashback, on imagine que là, il y a Jérémy, il y a 15 ans, qui est assis à côté de toi. Et est-ce que tu penses qu'il serait surpris de la personne que tu es devenue, de ce que tu fais aussi actuellement?
Mais c'est marrant
ce que tu es.
Ouais, mais c'est marrant parce que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il serait surpris? Je pense qu'il serait. Tiens, c'est marrant. C'est un bon exercice. Je pense qu'il serait assez fier. Ouais, je pense qu'il serait assez fier. Je pense du Jérémy quand il avait 14-15 ans. J'étais déjà un petit peu indigné. J'étais un peu à la cool. Ouais, je pense qu'il serait fier. Il serait content. Il serait content.
Je te repose la question dans 15 ans. Ouais. Et puis, on a aussi une question auquel tu vas te prêter après hors ligne. On demande à chacun de nos invités passés de nous offrir une question que nous, on voit un peu comme un fil d'Ariane. Donc, on offre à un invité futur, ce qui permet à des gens qui ne se rencontreraient sûrement jamais dans la vie de s'interpeller les uns les autres. Alors là, je vais te poser la question de Patrick Barbier. Alors, Patrick Barbier, c'est le maire de Müttersholz. C'est un tout petit village en Alsace qu'on allait rencontrer. C'est ma région d'origine. C'est un village dont le slogan sur le site web, tu peux dire « faire mieux avec moins ». Ça a été la capitale de la biodiversité en 2017, alors qu'il y a 2000 personnes. C'est un village qui pense la vie vraiment différemment. Que je t'invite à visiter d'ailleurs, c'est vraiment sympa là-bas. Et voici la question qu'il te pose. Est-il trop tard pour être pessimiste?
Belle question, très très belle question. Est-il trop tard pour être pessimiste? Oui, je pense qu'il est trop tard pour être pessimiste de toutes les manières. Parce que je ne sais pas si je vais reprendre les propos d'Aurélien Barraud qui a fait une très belle intervention au Festival Climax justement à Bordeaux et sa vidéo fait un petit buzz en ce moment. C'est oui, là on est dans une urgence climatique de malade. Il n'y a pas de, ça va être irréversible et c'est irréversible. De toute façon, il ne faut pas sortir de Sciences Po ou d'HEC pour comprendre que oui, il y a une urgence climatique et que oui, ça va être irréversible. En revanche, on peut toujours un peu améliorer la situation. On peut la dédramatiser. On peut Il prend l'exemple de la Seconde Guerre mondiale où, bien évidemment, c'est un drame humain où ça fait 60 millions de morts, mais ça aurait pu en faire aussi 200 millions, 300 millions, 400 millions. Donc oui, la situation est irréversible. Il est trop tard pour être pessimiste, mais on peut stopper les choses. On peut, par des actions, faire le bien autour de soi et puis limiter la casse. On va dire ça comme ça.
On partagera d'ailleurs cette vidéo sur notre page Facebook parce que je l'ai vue, je l'ai partagée sur ma page personnelle. Je trouve ça très intéressant.
C'est ouais, vraiment,
je comprends pourquoi ça devient viral. Une belle pensée.
Exactement.
D'après toi, les principaux enjeux pour avoir plus d'accès à plus d'informations de qualité dans le futur, c'est quoi? On fait comment pour mieux s'informer?
Oh, mieux s'informer. Alors là, déjà, je pense qu'il faudrait que tout le monde supprime ou jette sa télévision, déjà de base. Parce que c'est pas la télévision qu'on pourra s'informer, à part sur peut-être quelques émissions, mais elles font très peu d'audience. Mais déjà, jeter sa télévision et puis lire des médias indépendants. Lire des médias indépendants comme, comme La Relève, mais aussi comme Monsieur Mondialisation, comme Reporter, comme Bastamag. Comme tous ces médias indépendants qui sont, via leur nom, indépendants et qui ne sont pas financés par des investisseurs richissimes, qui ne sont pas financés par la publicité. Donc, comment mieux s'informer? Bah, faut déjà faire la démarche soi-même d'aller lire des médias indépendants. Voilà.
Ok. Puis moi, dernière question, parce que ça me court dans l'esprit, pourquoi la relève et la peste?
Alors, pourquoi La Relève et la Peste? En fait, à l'époque, je voulais choisir entre soit La Relève, soit La Peste. Et je me suis dit, La Peste, bon, ça fait un peu trop négatif quand même. Et je me suis dit, vas-y, je vais associer les deux. Et en fait, La Relève, c'était pour prendre le mouvement de la nouvelle génération. Je sais pas si tu avais lu le manifeste de Stéphane Hessel, qui s'appelait Indignez-vous.
Indignez-vous, ouais.
Voilà, il voulait qu'une nouvelle génération prenne la relève de tout ça. Et donc, du coup, c'était un peu la relève de cette nouvelle génération. Et La Peste, en fait, c'est tout simplement tiré d'Albert Camus, qui disait que le mal qu'éprouve une seule personne devient vite une peste collective. Et donc, du coup, je trouve qu'on est quand même dans une société où oui, on sait que pas mal de choses vont mal, il y a de plus en plus de burn-out, on est de plus en plus ancré dans notre train-train quotidien, on n'est pas vraiment heureux. Et donc, du coup, j'aime bien cette double exposition, La Relève, quelque chose de très positif, en même temps La Peste, quelque chose d'un petit peu plus négatif. Et donc, du coup, c'est un peu le yin et le yang, le bien et le mal. Et donc, du coup, cette association des deux, on fait La Relève et La Peste.
Eh ben
Voilà.
je suis encore plus contente de le savoir maintenant. Alors, pour nos auditeurs qui aimeraient se procurer, alors nous, on est écoutés à travers la francophonie. Est-ce qu'on peut se procurer vos livres, journaux? Est-ce que vous envoyez à l'international? Comment ça se passe? Quelqu'un qui voudrait justement avoir accès à votre contenu d'information, il fait comment? Il se rend où?
Alors, il peut aller sur le site de La Relève et la Peste. Donc ça, où que vous soyez dans le monde, le site internet marche, est 100% gratuit et ils auront accès à tous nos articles au quotidien. Voilà. Et ensuite, nos livres sont disponibles partout dans le monde. Aucun souci, il peut passer commande directement sur notre site internet. Et parce qu'en fait, on n'a pas de réseau de distributeurs pour le moment. J'ai fait le choix de rester encore une fois 100% indépendant. On va peut-être commencer à le développer, mais voilà. Ou acheter La Relève en version papier, c'est directement sur notre site internet. Et quand c'est des commandes à l'étranger, par exemple pour le Canada, ça met entre 10 et 15 jours quand même pour arriver. Donc voilà. Mais sinon, dans tous les cas, il arrivera à bon port.
Parfait. Mais écoute, merci beaucoup, Jérémy, pour le
Ah,
temps que
merci à
tu nous
vous.
as accordé. C'était vraiment un très beau moment passé ensemble. Donc, on jette tous nos télés. Eh bien, nous, on n'en a pas à la maison, mais on invite tout le monde à jeter sa télé, dès ce
Exactement.
soir. On ne la jette pas dans la
Exactement.
rue, hein, on l'emmène à
Non,
l'éco-centre,
voilà.
okay, pour bien pouvoir la réutiliser.
Exactement.
Et puis, on va s'informer autrement. Dans Graines, le livre journal que j'ai dans les mains, tu dis que c'est un ensemble d'acteurs du changement qui écrit là-dedans. Nous, ça nous a beaucoup parlé parce qu'à Curieuse Idée, on pense que toutes les personnes qui interviennent, dont toi maintenant, pour nous, tu es devenu un porteur de changement. Donc, tous nos invités, on les voit comme des porteurs de changement, puis on pense qu'il y a plein, plein de petites choses qui peuvent être faites par plein, plein de monde. Alors, merci beaucoup d'être porteur de changement, toi aussi. Et puis, au plaisir de te rencontrer, de te revoir et de continuer à lire le prochain livre, le journal. Je l'attends parce que Graine, je l'ai lu
Exactement.
plusieurs fois. Là, j'attends le
Et
troisième.
ben, le troisième arrive dans un mois. Pas de
Ah,
soucis.
j'ai hâte. Salut, Jérémy.
Merci, au revoir.
Et voilà, le 35e épisode est maintenant terminé. Il a été enregistré en duplex de Bordeaux à Québec. Merci, Jérémy, de nous avoir partagé ta vision et ton amour pour le journalisme. Et merci à vous, les auditeurs, pour votre fidélité. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un message sur notre site web, curiosidées-sans-accent.com, ou un avis et des étoiles sur notre chaîne iTunes, ou tout simplement en le partageant auprès de vos amis. Vos commentaires et vos partages sont vraiment notre meilleur soutien. Et pour ne rien manquer de notre actualité, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à notre infolettre. Cet épisode a été enregistré et produit par l'équipe de Curiosités à Québec, Clémentine et Aurélie. On se retrouve dans 2 semaines.